France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Décision exceptionnelle dans un service d'urgence. Il fonctionne désormais sans médecin interne, faute de médecins capés pour les encadrer. Ça se passe à Caen, mais des mesures inédites sont prises aussi depuis ce matin à Toulouse. Explication dans un instant. À suivre encore, Chine, la plateforme chinoise qui commercialise des poupées à caractère pédopornographique. Elle n'est pas la seule à le faire. Nous verrons cela. On s'interrogera aussi sur la possibilité d'interdire l'accès à ces sites depuis la France. Nous parlerons aussi dans les prochaines minutes du Venezuela avec vous. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Un pays qui nargue Donald Trump.
Face à la pression des États-Unis, le Venezuela demande de l'aide à un vieil ami. Un mystérieux avion militaire russe a atterri à Caracas il y a quelques jours.
A tout de suite pour vos précisions. Dans les prochaines minutes, nous serons également dans les Ardennes où un joyau du patrimoine, une chartreuse, est parti en fumée hier. Nous irons dans la ville de France où l'on est le plus gentil. Ça se passe dans le sud. Et nous ouvrirons aussi la semaine des prix littéraires. Le premier d'entre eux, le prix Femina, attribué dans quelques instants avant le Goncourt. Demain, à partir de 13h30, nous allons regarder l'Afrique au-delà des crises et des guerres. Avec un homme qui la connaît bien, c'est l'entrepreneur et banquier d'affaires Benoît Chervalier. Il vient de publier Ce qu'attend l'Afrique, c'est aux éditions de l'Aube. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton. Toute cette semaine, nous sommes avec Aurélie. Son compagnon Mathieu a été assassiné au Bataclan il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle sillonne école et prison. Elle nous racontera l'après.
Un terroriste, qu'est-ce qu'il veut ? C'est terroriser. Et ça marche, en fait. En tout cas, au départ, ça marche. Donc, j'ai fait ce truc de décider que je ne regarderai pas les infos. C'est-à-dire que je me suis occupée de mon chagrin, de mon fils, de ma fille. C'était déjà pas mal.
Tout cela quelques jours des commémorations du 13 novembre. 13h50, c'est la France. Cécilia Arbona nous emmène dans la vallée de la Charente. Des visons d'Europe y sont réintroduits. Juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Anne Richard, Claude François et Frédéric Pommier. Puis je vous parlais du prix Femina. Il est décerné à l'instant à La nuit au cœur de Natacha Apana. Et nous en reparlerons évidemment dans ce 13-14. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les épidémies de l'hiver n'envoient pas encore leur lot de malades aux urgences, que déjà, il faut prendre des mesures. Depuis ce matin, confrontés au manque de médecins, les hôpitaux de Toulouse et de Caen revoient leur organisation. Cela passe par des admissions encore plus strictes à Toulouse, on va y venir. Et puis à Caen, les internes, les étudiants en médecine ne renforcent plus les urgences. Tout cela pour les préserver. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
Cela fait donc des bras en moins. Comment ça se passe depuis ce matin?
Alors le SAMU qui régule l'accès aux urgences, vous savez, quand vous appelez le 15, va faire très attention de ne pas orienter des patients qui ne relèvent pas d'un soin immédiat pour ne pas engorger l'hôpital. L'agence régionale de santé qui a décidé de suspendre l'agrément des internes pour la durée d'un semestre, mise aussi sur la solidarité locale. Un certain nombre de praticiens urgentistes de Saint-Lô, de Falaise, de Bayeux, de Lisieux ont accepté de dégager un petit peu de temps pour venir aider le CHU. Enfin, dernier recours, celui de l'intérim médical qui risque de tourner à plein régime lors des prochains mois.
D'autres hôpitaux après celui de Caen pourraient-ils prendre la même mesure?
Alors précisons d'abord que cette situation a déjà existé. C'était en 2021 au CHU du Kremlin-Bicêtre en banlieue parisienne. Là aussi pour protéger les internes, Mélanie Debarex est présidente de l'intersyndicale des internes de France. Elle dénonce d'ailleurs des conditions épouvantables partout en France.
Je vous invite à passer la porte de n'importe quel CHU de France et d'aller voir dans les services. Vous verrez que les internes sont vraiment laissés seuls. Et le problème que nous on rencontre, c'est que les internes parlent peu. Pour eux parler, ça reviendrait à être faible. Donc on est dans un système extrêmement culpabilisant et compétitif. Donc les internes se taisent et ils travaillent dans le silence. Mais on se retrouve avec un suicide tous les 20 jours, 66% de signes de dépression et 21% d'idées suicidaires à l'année.
Alors pour le moment, Jérôme, aucun autre hôpital n'est concerné par cette suspension d'agrément pour les internes, mais comme il manque des médecins partout sur le territoire, les tensions ne vont pas diminuer dans les prochaines années. Autre illustration, vous l'avez dit, à Toulouse, là aussi, le manque des bras. Depuis ce matin, les hôpitaux de Rangueil et Purpan n'accueilleront plus les cas les plus bénins, réorientés vers des médecins généralistes. Cela durera le temps de recruter 25 médecins urgentistes. La chef du service des urgences du CHU de Toulouse, Sandrine Charpentier, au micro d'Ici Occitanie de Pascal Daniel.
Pour la médecine d'urgence, chaque année, on forme entre 450 et 500 nouveaux médecins urgentistes. Sauf qu'il y a plus de médecins urgentistes qui partent à la retraite que des 500 qui sont formés chaque année. Il m'en faudrait presque 700 pour arriver à répondre au départ des médecins plus vieux.
Elle demande globalement aux patients de ne pas surconsommer les urgences, un phénomène qui s'accentue ces dernières années. Comme les Français manquent très souvent de médecins traitants, ils vont
aux urgences.
Exactement, aux urgences pour des pathologies qui ne relèvent pas de ce service hospitalier.
Merci Victor Dolande pour ces explications. Toujours au rayon santé, les médecins et les infirmiers étrangers sont de plus en plus nombreux dans les systèmes de soins des pays développés. Voilà ce que nous dit aujourd'hui un rapport de l'OCDE. Quelques chiffres, les étrangers représentent 22% des médecins en Allemagne, 18% en France, 41% au Royaume-Uni, 30% aux États-Unis. Ils sont souvent ces médecins venus de l'étranger, originaires d'Asie. C'est la photo la plus commentée du week-end. On y voit côte à côte les patrons de la plateforme chinoise Chine et celui du BHV. Tous deux sont hilares avec cette légende, l'affiche qu'on n'aurait pas dû faire. L'image orne la façade du grand magasin parisien qui va accueillir dans deux jours la première boutique physique pérenne en France du géant chinois. Mais Chine est aussi depuis samedi dans la tourmente pour vendre sur son site des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. La répression des fraudes les a signalés il y a deux jours à la justice. On en parle avec Lou Bourdi et avec Xavier Demany. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Xavier, vous nous direz dans un instant si la France pourrait, si on a les moyens d'interdire Chine. D'abord avec vous Lou Bourdi, voyons que la plateforme chinoise n'est pas la seule en fait à commercialiser de tels objets.
Oui, effectivement, en se baladant sur Internet, on tombe en 2-3 clics sur d'autres sites qui en vendent. D'ailleurs, sans avoir vraiment à chercher, si vous lisez un article en ligne qui parle du sujet Chine, eh bien juste à côté, vous verrez sûrement apparaître de petites fenêtres de publicité qui vous relancent justement vers ce genre de poupée. Alors, en se baladant, on a découvert que le site AliExpress, autre géant chinois, propose lui aussi ses produits. En vente, par exemple, une petite poupée brune en silicone, toute nue, à la morphologie d'une enfant de 10 ans, avec cette description. Poupée de sexe de haute qualité, 140 cm, micro-sein et autres détails assez difficiles à lire. Un peu plus loin, on tombe aussi sur cette poupée, une petite fille avec un body rose, un petit body de danseuse ou encore sur celle d'un très jeune garçon, lui aussi tout nu, avec des commentaires de clients qui se disent très satisfaits. Et puis, on en trouve aussi sur des sites de revente. Sur Vinted, par exemple, une poupée au corps de petite fille, deux nattes dans les cheveux, photo prise sur un lit d'enfant et vendue 420 €. Mais depuis, la publication a été supprimée.
Alors, cette affaire suscite beaucoup de réactions. Le patron de Système U, Dominique Schellcher, demande la fermeture du site Chine en France. Voilà ce qu'on a dit ce matin. Roland Lescure, le ministre de l'économie sur BFM.
Là, on a dépassé les bornes. Vous l'avez dit, ces objets horribles, ils sont illégaux. On a dénoncé ça, on a fait un signalement au procureur, donc il y aura une enquête judiciaire. On a aussi saisi l'ARCOM, parce que c'est une plateforme numérique qui est régulée par l'ARCOM. Mais je veux être très clair là-dessus. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Chine au marché français. C'est dans la loi. Cette loi, nous l'avons votée. Le gouvernement peut le demander.
Engagement pris par Roland Lescure ce matin. Xavier Demany, interdire Chine ou une telle plateforme. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on l'a déjà fait?
Alors, je vais d'abord répondre à votre deuxième question. On l'a déjà fait en 2021 contre la plateforme américaine Wish, à la demande déjà de la répression des fraudes en raison de la présence de produits dangereux. Un blocage partiel, toutefois, et surtout levé 2 ans plus tard. Mmh. Toute autre situation, 2024, contre TikTok lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie, mesure ensuite annulée par le Conseil d'État. L'explication de texte maintenant. Roland Lescure invoque un texte de 2004, la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui permet selon Bercy de couper l'accès à un site et ou de le déréférencer. On se tourne pour ça vers les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs de ces sites ou bien les moteurs de recherche, le plus connu évidemment Google. En cas de contenu illicite et surtout de non-réponse à l'injonction de les retirer, mais tout ça donne lieu en général à de longues batailles juridiques et c'est d'ailleurs là que ça se complique, car dans les faits, Chine coopère, retire en général sous 24 heures les annonces. Par ailleurs, la plateforme n'est qu'un intermédiaire et n'a pas l'obligation de modérer les annonces a priori. Dernier acteur de l'équation, l'ARCOM, on l'a entendu dans la bouche de Roland Lescure, gendarme du numérique, saisi non pas sur le volet commercial, mais sur la protection des mineurs. Là, la France ne fait que transmettre les potentielles infractions instruites au niveau européen.
Merci à tous les deux, Xavier Demany et Lou Bourdi, pour ces précisions. 11 à l'heure. 11 à l'heure, c'est l'estimation du radar de l'Assemblée nationale. Les députés examinent en moyenne, depuis qu'ils ont le volet recette du budget entre les mains, 11 amendements par heure. Ça n'est pas très rapide, puisqu'il en reste plusieurs centaines à étudier. Ça signifie que le vote sur le volet recettes n'aura sans doute pas lieu demain, comme c'était prévu. Bonjour Mathilde Himy.
Bonjour Jérôme.
C'est vous qui suivez minute par minute ces débats, oui, lentement donc, à l'Assemblée pour Inter. Faisons ensemble un point. Mathilde, à quelques heures de l'arrivée, les députés ont acté moins de recettes que l'an dernier, a priori moins d'impôts donc pour l'an prochain.
Oui, parce que ça c'est un chiffrage fourni vendredi matin par la ministre des Comptes Publics. Il manquait alors, selon Amélie de Montchalin, près de 600 millions d'euros de recettes par rapport à ses objectifs, qui sont pour rappel 14 milliards d'euros de recettes et 17 milliards d'économies sur les dépenses pour boucler ce fameux budget. Les 600 millions d'euros, donc, c'était vendredi matin. Sauf que depuis, les débats ont continué avec notamment l'abandon des taxes Zucman et l'adoption d'un impôt sur la fortune improductive. Prenons juste cet exemple de cet impôt nouveau, introduit en séance. Son rendement est évalué à 2 milliards d'euros par le Modem et les socialistes, mais à 500 millions par Amélie de Montchalin ce matin à l'Assemblée. Difficile donc à ce stade de faire un bilan. Personne ce midi ne peut nous faire un chiffrage global. On n'a pas le temps, ça va trop vite, se plaignent des députés.
Pour ce qui est de la suite, Mathilde, les débats auront sans doute du mal à aller jusqu'au bout avant demain matin.
Ah oui, là, d'ici ce soir, c'est infaisable. Ouais. Hein. On est toujours après l'article 3 sur 48 articles en tout. Certes, tout n'est pas aussi long à examiner que ces premiers articles, mais quand même, le vote global devait avoir lieu demain. C'est impossible, les débats reprendront dans 9 jours plus tard, car il faut laisser la place en séance au budget de la Sécu. Problème, on ne parle là que de la partie 1 du budget, les recettes, sachant que le plus gros morceau, c'est celui des dépenses. Tenir le calendrier va être donc de plus en plus compliqué.
Merci Mathilde de Himy. J'ajoute que le gouvernement voulait réunir l'ensemble des représentants des groupes politiques de l'Assemblée au ministère des Relations avec le Parlement ce midi pour trouver une majorité. Alors sur ce texte du budget de l'année prochaine, mais aussi sur le budget de la Sécu, toutes les chaises ne seront pas occupées puisque les insoumis, mais aussi les socialistes et les écologistes ne se rendent pas à cette réunion, nous précise à l'instant notre journaliste Laurence Perron. Parmi les mesures qui sont débattues en ce moment par les députés, il en est une très concrète. Elle concerne le recyclage. La France est très en retard. Seul un quart des déchets d'emballage plastique sont recyclés chaque année. Alors le gouvernement veut contraindre les industriels d'en faire plus avec la mise en place d'une taxe sur les emballages en plastique non recyclés, mais depuis plusieurs jours, la filière plastique se mobilise, Marine Clette.
Depuis plusieurs jours, la boîte mail du député de Maine-et-Loire, les démocrates s'animent.
J'ai reçu effectivement deux mails des fédérations qui s'y opposent en m'indiquant les arguments pour lesquels il ne fallait pas voter la taxe, alors que j'étais celui qui portait un amendement pour l'augmenter. Donc j'ai trouvé ça un peu étrange.
Le député de Maine-et-Loire souhaite une taxe à 100 euros par tonne de plastique non recyclé contre 30 euros dans le projet de budget. Il estime que si lui a reçu ces mails, c'est que les destinataires étaient nombreux.
Un certain nombre de fédérations, de professionnels, de metteurs en marché qui ont reçu une oreille favorable de la part de collègues.
Comme par exemple lors de l'examen de la mesure par la commission des finances. Plusieurs amendements sont alors déposés par des parlementaires d'extrême droite, républicains ou encore macronistes pour supprimer la taxe.
Les éléments de langage des députés, c'est du copier-coller des industriels.
Lisa Pastor est chargée de plaidoyer pour l'association Surfrider Foundation.
Il est clair qu'on fait face à des lobbies qui arrivent à justement infiltrer ces projets de budget. Ça inquiète aussi parce qu'on a vu qu'on a des parties qui sont assez fragmentées. Donc maintenant, on attend vraiment à ce que les députés puissent être responsables.
Et sans consigne officielle des partis, le vote de cette taxe se jouera probablement à quelques voix. De quoi renforcer le bras de fer entre les industriels et les ONG.
Vote de la mesure, si tout est bien calé sur le calendrier initial, dans l'après-midi.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Un pays d'Amérique latine en conflit avec les États-Unis et aidé par Moscou. On ne parle pas de Cuba, mais du Venezuela, alors que Donald Trump fait tout pour que le président vénézuélien Maduro quitte le pouvoir. Voilà un atterrissage qui intrigue. Dimanche dernier, le 26 octobre, un avion de l'armée de l'air russe est donc arrivé dans le pays. Et tout cela quelques jours seulement après l'envoi d'une lettre par Vladimir Poutine au président vénézuélien Virginie Pironon.
Oui, une lettre dans laquelle, c'est ce que révèle le Washington Post, Nicolas Maduro demande à Vladimir Poutine des missiles, des radars et des avions modernisés. Alors que les États-Unis intensifient la pression sur le Venezuela, une douzaine de frappes américaines contre des trafiquants de drogue présumés ont tué plus de 60 personnes depuis septembre. Nicolas Maduro aurait également écrit au chinois Xi Jinping, l'Iran également serait mise à contribution. Concernant désormais cet avion militaire russe, Jérôme, un Ilyushin IL-76, selon le site spécialisé Flight Radar, il aurait transité par l'Arménie, l'Algérie et le Sénégal, des tours nécessaires pour contourner l'espace aérien des pays occidentaux. Alors, qu'avait-il à son bord ? Mystère, même si les spécialistes notent que l'appareil a été conçu pour transporter jusqu'à 50 tonnes de matériel militaire.
Et que c'est un avion de l'armée, je le rappelle. Il faut dire aussi, Virginie, que la Russie est un soutien de longue date du Venezuela.
Oui, les liens politiques entre les deux pays remontent à Hugo Chavez après son accession au pouvoir en 1999. Aujourd'hui, selon les analystes, la coopération va de la pétrochimie aux achats d'armes, en passant par les crypto-monnaies. Nicolas Maduro a besoin de Vladimir Poutine et vice-versa. Une usine de munitions Kalachnikov a ouvert cet été au Venezuela et Moscou possède également dans le pays des droits d'exploitation pour des milliards de dollars de réserves de gaz naturel et de pétrole.
Merci Virginie Pironon. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a été officiellement investie ce matin. 97% des suffrages, mais un scrutin présidentiel critiqué pour son manque de transparence et des violences électorales qui ont fait des centaines de morts. Les deux principaux opposants tanzaniens ont été soit emprisonnés, soit disqualifiés. Lui a fini par craquer. En Espagne, le président de la région de Valence, Carlos Mazón, a finalement démissionné ce matin. Un peu plus d'un an après les inondations meurtrières de 137 victimes qui avaient ravagé sa région. Les survivants et les proches des victimes ne cessaient de dénoncer depuis sa gestion désastreuse de la catastrophe et notamment le déclenchement de l'alerte qui avait été très tardive. Marie-Hélène Ballestero est à Madrid pour Inter.
Cela fait un an que les familles des victimes des inondations réclament la démission du président régional valencien, Carlos Mazón. Un an de manifestations massives et d'indignation sociale. Mais ce sont sans doute les insultes reçues pendant les funérailles d'État mercredi dernier et la pression du Parti populaire qui l'ont définitivement poussé vers la sortie. Mazón a tenté ce matin de donner des explications sur son départ.
Je peux vous assurer que de mon plein gré, j'aurais démissionné il y a longtemps. Il y a eu des moments insupportables pour moi, mais surtout pour ma famille. J'ai cru du fond du cœur qu'il me serait plus facile de démontrer depuis ce siège ce qui s'est passé dans la gestion de l'urgence, les informations dont nous n'avons pas disposé, l'aide qui n'est pas arrivée, et surtout que je pourrais aider à relever cette terre après la dévastation. Mais je n'en peux plus.
Une fois de plus, le président valencien s'est présenté comme une victime en rejetant la faute sur les autres et notamment sur le gouvernement central et les organismes publics qui ne lui ont pas fourni, selon lui, suffisamment d'informations le jour des inondations meurtrières. Mazón n'a pas encore précisé sa date de démission. Il devrait conserver son mandat de député et son immunité parlementaire alors que l'étau judiciaire se resserre autour de lui. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Au Royaume-Uni, le suspect de l'attaque au couteau menée samedi dans un train dans l'est du pays. Cet homme a été inculpé ce matin de tentative de meurtre contre 10 personnes. 5 sont toujours hospitalisées. Cet homme, Anthony Williams, un Britannique de 32 ans, n'était pas connu des services de police antiterroriste, nous dit le gouvernement de Londres. Mais particularité dans cette affaire, bonjour Laura Calmus.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres pour Inter. La police britannique a communiqué sur les origines du suspect en raison de rumeurs sur les réseaux sociaux.
Oui, exactement. Alors la police des transports britannique a initialement arrêté 2 hommes pour tentative de meurtre. L'un d'eux a ensuite été relâché et lors de ce premier point presse hier, elle a donné des détails précis sur les suspects.
Un homme de 32 ans de nationalité britannique, noir, et un autre de 35 ans, britannique, d'origine caribéenne. Tous deux sont nés au Royaume-Uni.
Une précision devenue stratégique et une nouvelle directive publiée récemment par la police britannique, les forces de l'ordre sont désormais encouragées à communiquer la nationalité et l'ethnicité des suspects. Rappelez-vous par exemple les émeutes de l'été 2024 après la terrible attaque au couteau de Southport qui avait coûté la vie à 3 fillettes et provoqué un déferlement de fausses informations sur les réseaux sociaux. Explication du député conservateur Chris Philp.
Dès qu'on a le sentiment que des informations sont retenues, cela ouvre la porte aux rumeurs et à la désinformation. On l'a vu tragiquement après les meurtres de Southport.
Mais cette transparence reste controversée. D'anciens responsables policiers redoutent que mentionner l'origine d'un suspect ne fasse que nourrir l'obsession de l'extrême droite. Une ligne de crête pour les forces britanniques, désormais sommées d'être à la fois plus transparentes et plus prudentes que jamais.
Précision signée Laura Calmus à Londres pour Inter. Le trafic des trains perturbé aujourd'hui en région Bretagne sur le réseau TER. Les agents sont en grève pour dénoncer l'insécurité dans les rames, plus 48% pour les violences depuis 2022, selon les chiffres de la direction de la SNCF dans la région. En Moselle, un adolescent de 15 ans interpellé et placé en garde à vue hier. Il est soupçonné d'avoir poignardé un autre mineur âgé, lui, de 17 ans à Neufchefs, au nord de Metz, une trentaine de kilomètres au nord de Metz. Ce jeune est mort après avoir reçu deux coups de couteau au thorax. Ils avaient tous deux un différend depuis plusieurs mois, précise le procureur de Thionville. Dans les Ardennes, c'est un trésor du patrimoine qui est parti en fumée hier. La Chartreuse du Mont-Dieu, un monastère dont la construction a débuté au XIIe siècle, situé entre Vouziers et Sedan, qui a été touché par un violent incendie. Un véritable choc pour les habitants, tant ce monument s'inscrivait, Elsa Fournier, dans le patrimoine du département.
Il faut remonter en 1131, au XIIe siècle, pour retracer l'origine de ce bâtiment, une des plus vieilles chartreuses de France, c'est-à-dire un monastère où vivent des moines chartreux. Celle du Mont-Dieu se situe en plein cœur de la forêt. Ses vestiges ont été classés monument historique en 1946. Alors, dans le village, c'est un peu un symbole qui est parti en fumée. Ici, tout le monde la connaît, confie un habitant. Il est arrivé sur place une heure après les premières flammes. Une vision morbide, déplore-t-il, qui lui rappelle les images du feu de Notre-Dame de Paris, en plus petit. Au moment de l'incendie, plus personne ne résidait au sein du monastère ardennais. Les derniers chartreux en ont été chassés au moment de la Révolution française.
Précision ici, Champagne-Ardenne. Ils sont condamnés pour avoir mis le feu à des pylônes téléphoniques. 10 gilets jaunes du Haut-Rhin écopent de peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Peine prononcée ce matin par le tribunal de Mulhouse. Mais ils ont tous été relaxés du chef d'association de malfaiteurs. D'ailleurs, les peines prononcées ce matin ont été plus clémentes que celle requise. À Paris, une bijouterie Swarovski a été la cible d'un braquage. C'était vendredi dernier, mais on ne l'a appris que ce matin. Butin estimé à 200 000 euros. C'est un magasin situé rue de Rennes qui a été braqué par un ou plusieurs individus vendredi matin vers 9h30. La plupart du temps, ce sont les joueurs que l'on sanctionne dans ces affaires de paris sportifs en ligne. Mais là, ce sont des arbitres qui ont parié sur des matchs que parfois ils dirigeaient eux-mêmes. Ça se passe en Turquie. Le conseil de discipline de la Fédération turque de football vient de suspendre en fin de semaine dernière près de 150 arbitres. Bonjour Marie-Pierre Véro.
Bonjour à vous.
Vous êtes notre correspondante en direct d'Istanbul. Marie-Pierre, on parle d'un phénomène généralisé.
Ah oui, plutôt, puisque ce sont près de 2/3 des arbitres turcs qui possèdent des comptes de Paris. 371 sur 571, 22 officient au niveau national, et certains sont particulièrement actifs. 10 des arbitres incriminés ont placé plus de 10 000 paris, l'un plutôt frénétique, plus de 18 000. Et vous le disiez, les sanctions tombent, 8 à 12 mois de suspension pour 149 arbitres. L'enquête interne de la fédération se double d'une autre qui a été ouverte par le parquet d'Istanbul. Le club de Beşiktaş demande à y prendre une part active. Son entraîneur a écopé d'un carton rouge hier soir. C'était lors du match contre Fenerbahçe. Eh bien, plusieurs supporters ont montré à la télévision des messages qu'ils avaient reçus sur leur téléphone leur proposant justement de parier sur un carton rouge pour l'entraîneur de Beşiktaş avec une bonne cote. Ces accusations de partialité des arbitres turcs émaille chaque week-end de rencontres, ici au point que le derby Galatasaray-Fenerbahçe en février dernier avait été confié à un arbitre étranger, tout comme d'ailleurs le contrôle de l'arbitrage vidéo de plusieurs matchs au printemps. C'est ce qu'il faudrait, étendre le recours à des arbitres étrangers, selon plusieurs spécialistes, pour nettoyer le foot turc gangréné par la corruption. Mais pour l'heure, la fédération turque s'y refuse encore.
Marie-Pierre Véro, en direct de Turquie. On peut aussi parier cette semaine, c'est d'ailleurs la semaine pour le faire, sur les prix littéraires qui aura le Médicis mercredi, qui aura le Goncourt, qui aura le Renaudot demain. On a déjà un petit indice avec le prix Fémina qui vient d'être décerné. Je rappelle que le jury est exclusivement féminin. 12 femmes pour le décerner cette année. Bonjour Ilana Moriousef.
Bonjour.
Vous êtes en direct du musée Carnavalet pour le décerner cette année à Natacha Apana pour La Nuit au cœur.
Oui, c'est un livre où elle évoque deux féminicides, celui de sa cousine et celui de Chahinez Daoud, brûlée vive par son mari. Je vous propose d'écouter Natacha Apana.
C'est un livre à la frontière de plusieurs genres, entre le roman, l'essai et l'écriture du jeu. C'est un roman qui parle des femmes, qui parle de la nuit des femmes et de la manière dont la lumière parfois entre dans ces nuits-là.
Voilà, ce sont des histoires entremêlées à l'histoire personnelle de l'autrice, victime elle-même de violences de la part d'un ancien compagnon. Le prix Femina étranger va au romancier irlandais John Boyne pour son roman Les éléments, traduit de l'anglais par Sophie Aslanides. Beau roman, divisé en quatre grandes parties, chacune racontant une histoire où l'on retrouve des personnages de la précédente. Et à chaque fois, ce sont des personnages qui essayent d'affirmer leur liberté en dépit de contraintes sociales et de préjugés sociaux très forts.
Avant de parler de l'essai, Ilana, un mot de Natacha Apana, ça veut dire qu'elle n'aura pas le Goncourt demain.
Ah, ça c'est sûr, c'est oui, sûr, parce ouais. que, enfin, rien ne l'interdit dans l'absolu, mais les jurés font attention à ce que plusieurs livres puissent se vendre et donc concentrer toutes les ventes sur un seul livre dans un moment de crise de l'édition, ça n'aurait pas de sens. Donc on peut dire, oui, qu'elle n'aura pas le Goncourt demain.
Je referme la parenthèse, le prix Femina Essai, à qui va-t-il ?
Alors il va à Marc Weitzman pour son essai La part sauvage, c'est un essai très personnel sur son amitié de 20 ans avec Philippe Roth. Ce livre, a-t-il dit, est une invitation à lire les romans de Philippe Roth pour comprendre ce qui arrive à notre société.
Merci Ilana Mor-Youssef en direct avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. On vous retrouvera tous les deux demain en direct pour la révélation donc des lauréats ou lauréates des Goncourt et Renaudot. Ce sera en direct dans ce 13-14. Ça vous a peut-être échappé, mais ce lundi 3 novembre est la journée internationale de la gentillesse. Alors quelle est la ville de France dans laquelle les habitants ont le plus de petites attentions ou de mots gentils? Eh bien, pour le savoir, il faut se rendre dans les bus de Toulouse, où une pratique tout à fait agréable, le fameux « merci, au revoir » est en vigueur depuis bien longtemps et c'est très pratique et très exotique pour ceux qui viennent d'ailleurs, comme l'a constaté Claudia Calmel.
Quiconque a un jour pris le bus à Toulouse n'a pas pu échapper à cette petite rengaine.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Des remerciements adressés aux conducteurs, assez étonnants pour Frédéric, Léa, Marilyn et leurs proches, un petit groupe de 13 personnes débarqués de la région lyonnaise pour le week-end.
On a fait la remarque hier, on s'est dit dans le bus, tout le monde dit bonjour, tout le monde dit merci.
Oui, c'est surprenant parce que nous on est plus proche de Lyon et c'est plus individualiste.
À Lyon, il n'y a pas de politesse.
Les Lyonnais apprécieront. Et les conducteurs dans tout ça, ils en pensent quoi ?
Mais ça fait plaisir.
Voilà, ils apprécient et ils font en sorte de répondre aux passagers.
Quand on rentre chez Tisséo, avec nos nouveaux conducteurs qui arrivent sur le réseau, on les prévient et puis on leur demande de continuer à véhiculer ça. Merci, au revoir, bonjour. Ça est devenu une culture d'entreprise, effectivement. Ouais.
Le merci, au revoir de fin de trajet, une habitude que les néo-toulousains adoptent généralement très rapidement, comme Christelle quand elle est arrivée de région parisienne il y a une vingtaine d'années.
Même s'il y a des nouveaux habitants chaque année, tout le monde se met à la page, tout le monde prend le pli, et c'est ça qui est chouette.
Une fierté, en tout cas, pour Rosemary.
Ah oui, c'est toulousain. Il y a quatre Toulouse, ça se pratique.
Donc le toulousain est gentil.
Voilà, et poli.
Mais on peut exporter le merci au revoir au-delà de Toulouse, bien évidemment. Reportage ici Occitanie. Pour nous, le merci au revoir, ce sera à 14h. Pour l'heure, il est 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, un continent qui fait la une de l'actualité internationale ces derniers jours, c'est l'Afrique. Mais nous allons parler des Afriques avec l'entrepreneur et banquier d'affaires Benoît Chorvalier, 01 45 24 7000 pour être avec nous, pour nous interroger notamment sur les révolutions silencieuses, celles que l'on ne voit pas en ce moment en Afrique. 13h45, notre feuilleton, nous sommes cette semaine avec Aurélie, son compagnon a été assassiné il y a 10 ans au Bataclan. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbona, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, avec vous, nous sommes en Charente.
Dans les marécages
et les rives de la Seugne et du Né sur les traces des visons d'Europe, une espèce en voie d'extinction que l'Office français de la biodiversité tente de réintroduire.
Et avec vous, Frédéric, une comédienne.
Anne Richard, elle est actuellement à l'affiche du théâtre de Poche-Montparnasse à Paris. Et avec elle, nous parlerons d'une chanson de Claude François, Clo-Clo. Elle n'écoutait que lui quand elle était
ado. Le lundi
ado.
Au soleil, non pas du tout.
Mais même pas, ah, c'est pas... Pas ça.
Non, suspense.
Merci, à tout à l'heure.
À tous les deux, et à tout à l'heure.
Tous les matins sur France Inter, la grande matinale vous ouvre les fenêtres sur le monde.
9h-11h, Sonia De Villers.
À 9h20, je vous emmène à la découverte d'une personnalité. Elle est connue ou moins connue, mais elle nous dit quelque chose de l'époque. Alors, quelles sont ses racines, sa vie, son parcours? Voici son grand portrait.
Moi, je suis très nomade, mais je me sens un peu partout chez moi. Je suis pas un nomade qui se cherche un endroit là, désespérément.
La grande matinale.
Tous les jours, à 9h20, sur France Inter.
Bonjour, je m'appelle Eya Belkirat. Je suis conseillère EDF pour les entreprises. Mes clients entrepreneurs veulent une gestion sans imprévu de leur budget électricité. Alors, je leur propose un contrat EDF adapté à leur activité, dont la part énergie est à prix fixe de 1 à 4 ans. Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur budget et être plus tranquilles. Appelez-nous au 3022.
EDF. Service gratuit, prix d'un appel local. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Contrat à prix fixe de l'énergie, hors répercussion des évolutions réglementaires prévues dans le contrat.
Bonjour, cher voisin.
Bonjour, Chantal.
Elle est à vous, cette belle auto?
Oui, pourquoi?
Mais vous devriez la protéger, hein? Avec ce qui tombe en ce moment.
Mais la protéger de quoi? Voyons, Chantal.
Mais de la pluie, de la grêle, de la chaleur, de la poussière d'étoiles, que sais-je encore. Oh. Chez Akena, ils ont un choix incroyable de carports. Ah. Pour tout type de véhicule.
Alors, à ce compte-là, Akena, c'est la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Et bonjour Jérôme, bonjour à toutes et tous.
Je suis ravi de vous accueillir dans ce 13-14. Stéphanie, un bel après-midi ensoleillé attend les habitants du sud de la France.
Oui, de Bordeaux à Lyon et par extension sur le flanc est jusqu'à Strasbourg. Les nuages laissent place à de larges éclaircies. Sur la zone méditerranéenne, le vent accompagne cet ensoleillement. Mais si Tramontagne se calme, le Mistral donne encore quelques bonnes rafales de 50 à 60 km par heure. Plus on remonte vers le nord, plus l'évolution est difficile. Les apparitions du soleil doivent encore composé avec des passages nuageux assez nombreux, voire des brunes localisées du Grand Est aux frontières du Benelux. Quelques pluies faibles circulent même par moments de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, avec du vent de sud-ouest de 50 à 60 km par heure sur le littoral de la Manche.
Et des températures qui par endroits sont très douces.
Oui, on dirait même l'été indien, notamment dans le sud, où on hésite un peu à sortir la doudoune avec 23 degrés à Pézenas, 21 à Grasse comme à Biarritz. En remontant vers le nord, ça se rafraîchit tout doucement. 19 à Bordeaux, 17 à Dol de Bretagne, 16 à Châteauroux et Paris, 15 degrés à Nevers et Beauvais, 12 à Belfort et 11 degrés à Verdun. Là, on peut sortir les doudounes.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
De la Tanzanie au Soudan, en passant par le Cameroun ou encore le Maroc, les crises, voire les guerres africaines, dominent l'actualité ces dernières semaines, mais nous allons essayer dans les prochaines minutes de dresser un tableau plus complexe d'un continent qu'on présente encore trop souvent comme uniforme. C'est le point de départ de votre livre, Benoît Chervalier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes enseignant à l'école de commerce L'ESSEC, notamment sur son campus de Rabat au Maroc. Vous avez aussi travaillé pour la Banque africaine de développement et vous avez publié il y a quelques semaines Ce qu'attend l'Afrique. C'est aux éditions de l'Aube. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent vous poser leurs questions. Ils passent également via l'application Radio France. Benoît Chervalier, j'ai parlé des drames que connaît le continent africain en ce moment. On en parle beaucoup à l'antenne de France Inter. Souvent, à travers ces guerres, ces famines, ces élections contestées ou truquées, est-ce qu'on a une image trop sombre, trop catastrophiste de l'Afrique ?
Alors clairement, alors si je prends une d'ailleurs de l'un de vos confrères qui était The Economist,
ouais.
En mai 2000, c'était le continent sans espoir. Et 10 ans plus tard, on parlait du continent de ce qu'on appelait le Africa Rising, c'est-à-dire l'Afrique qui change, l'Afrique qui grimpe. Et précisément, comme il y a 54 pays sur le continent, dès que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, nécessairement, situation difficile, complexe, etc. On va souvent se focaliser sur ces quelques cas, ce qui, ne les exclut pas, au détriment finalement de tous les autres. Donc ce que j'ai voulu à travers ce livre, c'est montrer non pas simplement la complexité, mais aussi l'enthousiasme. On va y revenir, je suis sûr que vous allez m'interroger sur la question, mais par exemple à Madagascar, oui, c'est vrai qu'il y a eu évidemment une crise, et pour autant...
Manifestation de la jeunesse contre le président malgache et sa politique.
Et pour autant, la société, l'économie ne s'est pas arrêtée, la société ne s'est pas bloquée, les gens continuent à travailler normalement. Et donc, ces lunettes que l'on peut avoir un petit peu déformantes, elles peuvent laisser à penser justement d'avoir une image à la fois globalisante et une image, j'allais dire, trop sombre, et finalement qui va au détriment de cette réalité, de ces réalités africaines.
Mais ça veut dire qu'il y a en ce moment un certain nombre de révolutions qui ont lieu sur le continent africain et qui nous échappent, qu'on ne voit pas ou dont on ne parle pas.
Exactement. Et je vais prendre deux exemples. Ouais. Par exemple, les élections au Botswana. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence vous avez parlé de ces élections exactement. Ces élections présidentielles
pas
au Botswana,
du tout, je crois.
Donc qui sont déroulées il y a quelques mois, qui sont très bien passées. Alors, le Botswana, pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est à peu près la taille de la France en superficie.
C'est l'Afrique du Sud-Est.
Donc, c'est plutôt l'Afrique. Voilà, c'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Donc, c'est un pays relativement grand en termes de superficie. Donc, il y a eu des élections présidentielles et pour la première fois, en plus de 40 ans, il y a eu une alternance qui s'est passée tout à fait normalement. Et, précisément, on n'en a pas du tout parlé.
Le train qui arrive à l'heure.
Le fameux train qui arrive à l'heure. Donc ça, c'est pour montrer cette nuance et cette
sur l'aspect vie démocratique.
Sur cette vie démocratique. Et au-delà de ça, encore une fois, en dépit des crises et autres, moi, ce que j'ai surtout voulu montrer, c'est cette extraordinaire résilience, cette extraordinaire innovation et cet extraordinaire dynamisme. Alors, il y a des raisons pour cela. Évidemment, la jeunesse en fait partie. Le fait que on dit souvent, on rappelle souvent que l'âge médian du continent, c'est 20 ans. Alors même si d'ailleurs,
ça c'est un point commun entre tous les pays africains. Vous insistez sur les différences. Vous dites il y a des Afriques, mais la jeunesse c'est quand même un point commun, non ?
Alors oui et non. Et je vais vous donner juste deux ou trois petits exemples. Premièrement, l'âge médian d'un pays comme le Maroc ou la Tunisie, ça tourne autour de 30 ans. L'Afrique du Sud, c'est 28 ans. Et l'âge médian au Mali et au Niger, c'est moins de 15 ans. Donc entre 15 ans et 30 ans, c'est quand même pas tout à fait pareil.
Non, mais vu d'Europe, ça paraît quand même très jeune, que ce soit 15 ans ou 30 ans.
C'est vrai, mais même aussi en démographie.
Mais ça fait des différences énormes.
Ça fait quand même une différence. En démographie, par exemple, le taux de natalité de Maurice, aujourd'hui, il est inférieur à celui de la France. Botswana, je vous le mentionnais tout à l'heure, il est légèrement supérieur à 2, par rapport à 6
au Mali. On fait moins d'enfants à Maurice aujourd'hui qu'en France.
Oui.
Parmi les révolutions que vous décrivez, il y en a une qui m'a passionné, c'est celle des banques en ligne au Kenya.
Oui.
Là encore, c'est un phénomène qui passe totalement sous les radars vu de France. Vous pouvez nous expliquer, Benoît
oui.
Charvalier, en quoi ça consiste et en quoi c'est étonnant et ça peut être un modèle d'ailleurs.
Alors, je le prends notamment avec quelques anecdotes que j'ai voulu, à travers mon livre, que ça soit très vivant et donc l'illustrer à travers toute une série de la vie réelle et aussi de mes étudiants. Et dans le cas d'espèce, le point de départ de tout cela, et d'ailleurs qui avait fait l'objet de mon premier livre, qui était un iPhone à Bamako, c'était en 2006. Pourquoi ? Parce que quand vous n'avez pas au départ d'électricité à la maison, le frein que constituait justement l'absence d'électricité à la maison faisait que vous n'avez pas le téléphone. Et la téléphonie mobile a fait ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire qu'elle a fait un saut de progrès.
On n'est pas passé par le fixe, donc on est arrivé directement au mobile.
Exactement. Et donc, il s'est passé la même chose en termes de ce qu'on appelle l'inclusion financière ou la bancarisation. Comme au Kenya, dans le cas d'espèce, il y avait 70% de la population qui n'était pas bancarisée. Et en même temps, évidemment, ils avaient des besoins. Et donc, l'arrivée simultanée de la téléphonie mobile avec cette sous-bancarisation, fait que le Kenya est passé directement à le paiement par mobile. Et je raconte d'ailleurs de manière assez amusée que parmi mes étudiants qui utilisaient leur téléphone pour payer, dès les années 2010, les étudiants qui utilisaient ce moyen de paiement, c'était mes étudiants africains. En revanche, j'avais pas un étudiant européen qui l'utilisait. Donc on avait d'une certaine manière une forme d'innovation inversée, où ceux qui accusaient un retard finalement passaient devant, et ceux qui étaient devant passaient derrière. Et donc je l'illustre à travers en effet ce qu'on appelle ce mobile banking, dont le Kenya était le précurseur.
Tout cela pour dire et pour démontrer, c'est ce que vous essayez de faire, Benoît Chervalier, que tous les retards ne sont pas rédhibitoires. Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être une chance pour les pays africains plus que pour d'autres continents ?
Alors, là aussi, la réponse, elle est évidemment nuancée. Ce qui est certain, c'est que toutes les cartes sont rebattues pour tout le monde. Donc, la singularité que peut avoir le continent africain, en tout cas les pays africains, avec encore une fois des différences profondes entre eux, c'est d'une part évidemment cette jeunesse et donc la force de travail, c'est-à-dire le fait que
ils s'emparent plus facilement des nouvelles technologies peut-être.
Non,
aussi
c'est pas ce que je veux dire, c'est que le fait simplement c'est qu'on va avoir une masse de jeunes gens qui vont arriver et donc qui vont être prêts à pouvoir utiliser à ce qu'on a fait il y a une dizaine d'années par exemple à travers les call centers dans d'autres pays, là, ça ne va pas être simplement des centres d'appel, mais ça va être justement des jeunes data scientists dans une proportion totalement inégalée. Donc, c'est la force de travail, premièrement. La deuxième chose, c'est le fait que à travers l'intelligence artificielle, c'est, si je puis dire, un double leapfrog, c'est-à-dire qu'on peut aller encore plus vite et changer encore, de manière encore plus significative, justement, les évolutions et les mutations. Donc, quand vous avez
un exemple ?
Par exemple, en termes géologiques, ce que l'on sait, c'est que beaucoup de pays africains sont richement dotés en matières premières et en minerais stratégiques. Bon, donc la question, c'est d'abord le recensement de ces ressources et de ces minerais. Aujourd'hui, dans un pays comme la Mauritanie, il y a un processus d'intelligence artificielle qui est en cours afin de recenser justement ces minerais de manière beaucoup plus précise, de déterminer, parce qu'un minerai, il ne faut pas simplement qu'il soit disponible, il faut qu'il soit exploitable. Donc ça, c'est la qualité de la mine. Par exemple, la bauxite, c'est la teneur en fer. Toutes les mines ne se valent pas. Et donc, ça permet de cibler directement les ressources qui vont pouvoir être utilisées, celles qui pourront être transformées. Donc là, évidemment, c'est un gain de temps, d'énergie, de ressources, et donc in fine, de transformation.
Quel intérêt si l'extraction, la production, la transformation est dans les mains d'entreprises étrangères et que aucun revenu ou très faible ne vient dans les mains des Mauritaniens ou de l'État mauritanien ?
Alors vous avez parfaitement raison, et c'est ce qui a motivé, par exemple, la création de cette chaire que j'évoque à l'ESSEC, que j'ai co-créée l'année dernière, qui s'intitule Business et Industrie en Afrique et qui porte précisément sur l'industrialisation et la transformation locale des matières premières. C'est-à-dire que l'enjeu absolument majeur des toutes prochaines années, c'est de passer d'une économie extractive à une économie productive. Alors, c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mutations, pour ne pas dire de révolutions qui sont engagées. Si on prend l'exemple en Côte d'Ivoire de la noix de cajou, où en 5 ans, on est passé de 5% de transformation pour créer de la noix de cajou à 30% aujourd'hui, en 5 ans. Mais c'est bien, on n'en parle pas. Pour reprendre notre analogie de tout à l'heure. Mais au-delà de la matière première agricole, on pourrait parler de la fève de cacao, on pourrait parler évidemment d'autres matières agricoles, c'est aussi des matières non agricoles, de la bauxite à l'alumine, qui est évidemment du nickel, du cobalt, du lithium, qui sont des minerais absolument fondamentaux, que ce soit pour la lutte contre le changement climatique et notamment la fabrication de batteries électriques, jusque même d'ailleurs des industries d'armement, puisque l'industrie d'armement est aussi très consommatrice de minerais. Donc là, le fait de transformer localement, ça fait quoi ? Ça fait, un, ça génère des ressources, puisqu'il y a du revenu qui est fixé localement. Deux, ça génère des emplois directs et indirects. Trois, ça a une meilleure empreinte environnementale, puisque au lieu d'extraire et d'envoyer à l'autre bout du monde la matière première pour être transformée, elle est transformée sur place. Donc, ce qui veut dire que vous avez aussi un bénéfice environnemental. Bref, c'est exactement les conditions qui font que cet usage est une vraie clé d'avenir.
Vous nous avez parlé, peut-être, dans les années qui viennent, de ces générations nombreuses, main-d'œuvre abondante, qui pourraient, par exemple, devenir data scientist. Oui. Pour ça, il faut une formation. On sait que le taux d'illettrisme reste encore très fort dans beaucoup de pays d'Afrique. Est-ce qu'il y a des progrès de ce point de vue-là ?
Alors,
mais pardon là encore de généraliser à l'échelle du continent, mais vous allez descendre vous au plus près du terrain.
Exactement, parce que faut toujours aller au terrain. À la fin des fins, moi, je suis un grand adepte de partir du terrain et pour nourrir des réflexions. Alors évidemment, ça dépend de quelle éducation on parle. Je pense que la première erreur serait justement de vouloir généraliser, c'est-à-dire d'imaginer que tout le monde par exemple, irait au niveau d'un équivalent lycée ou baccalauréat, ce qui évidemment est une absurdité. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une vision fine des situations. Donc la première, c'est d'abord l'industrie agricole et l'agriculture. C'est-à-dire qu'on connaît le pourcentage très important de terres arables sur le continent africain. Et donc là, ça veut dire qu'on a besoin aussi de former, mais on n'a pas besoin de les amener jusqu'au baccalauréat, absolument pas. C'est de les fixer à la fois, parce que si on a tout un tas de jeunes gens qui arrivent en zone urbaine, c'est une catastrophe pour tout le monde. Donc, première priorité, et c'est ce que je développe, c'est l'agriculture. Deuxième priorité...
Il nous reste 20 secondes.
Voilà. Deuxième priorité, c'est la formation technique et technologique, c'est-à-dire l'apprendre l'apprentissage d'emploi, de formation, pour justement correspondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain.
Tout cela et beaucoup d'autres sujets encore qu'on n'a pas pu évoquer ensemble, Benoît Charvalier. À lire dans Ce qu'attend l'Afrique, ressources locales, tensions mondiales, c'est aux éditions de l'Aube et c'est passionnant. Merci d'avoir été avec nous.
Merci de votre invitation.
Aujourd'hui, 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie, dans notre feuilleton, toute cette semaine et à quelques jours des commémorations des attentats du 13 novembre, nous allons suivre Aurélie. Aurélie Sylvestre a perdu son compagnon Mathieu Giroux il y a 10 ans. Il a été assassiné au Bataclan, laissant derrière lui Gary, leur petit garçon 3 ans à l'époque, et Thelma, leur petite fille à naître. Aujourd'hui, Aurélie raconte leur histoire inlassablement et grâce à notre reporter Charlotte Piret, nous la retrouvons au lycée Paul Langevin, à Suresnes, près de Paris, dans le cadre de rencontres organisées par l'Association française des victimes de terrorisme.
Bonjour. C'est pas toujours évident de raconter son histoire, on n'a pas toujours envie. Mais je suis quand même contente de vous la raconter. Donc à l'époque, j'avais 34 ans. Il s'appelait Mathieu. Était prof à l'université en géographie. On avait réussi à créer la vie qu'on avait envie d'avoir ensemble. On avait un appartement chouette, des potes cool, des métiers qui nous plaisaient, un petit garçon rigolo. Et puis, on était super contents parce que moi, j'étais enceinte d'un deuxième enfant. Donc moi, je m'appelle Aurélie Sylvestre. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Et il y a 10 ans, il m'est arrivé cette chose impossible et qui pourtant est arrivée. Mon compagnon a été assassiné. Le 13 novembre, évidemment, je m'en souviens comme si c'était hier, il a réussi à rentrer plus tôt du travail. Donc, il m'a envoyé un message pour me dire « Je vais m'occuper de tout, tu peux prendre ton temps. En plus, moi, je sors, j'ai un concert après. » Et donc, il est parti sifflotant à ce concert en promettant de rentrer bientôt. Bon, je vous passe les détails. On a appris le décès de Mathieu le lendemain soir et l'après commence. Et dans l'après, il y a des grandes décisions à prendre. Organiser un enterrement, gérer la famille qui s'effondre, parce que en fait, tout le monde s'effondre en même temps. Et un terroriste, qu'est-ce qu'il veut ? C'est terroriser. Et ça marche, en fait. En tout cas, au départ, ça marche. Donc, J'ai fait ce truc de décider que je ne regarderai pas les infos. Et je me suis dit, voilà, je vais faire les choses les unes après les autres. Donc un jour après l'autre. C'est-à-dire que je me suis occupée de mon chagrin, de mon fils, de ma fille, c'était déjà pas mal. À intervalles réguliers, mon avocate m'envoyait des mails en me disant « Je sais que ça ne vous intéresse pas, mais voilà, l'enquête avance. On a un rapport de police que vous ne lirez pas, mais si vous voulez, je peux vous le donner. » Et en fait, je n'ai absolument jamais répondu à ces messages, jusqu'au jour où je vois qu'elle me téléphone et elle me dit cette phrase « Le procès va avoir lieu, c'est un procès historique, ça va durer 10 mois, il y a 2000 parties civiles, c'est pas très loin de chez vous, ça aura lieu avec ou sans vous. » Il va probablement falloir que vous veniez, quoi. Et je passe l'été, en fait. C'est une pensée assez envahissante, quoi, de se dire, en fait, elle a raison. Et je me dis, voilà, on est six ans après, il est peut-être temps de connecter à cette histoire. Et donc, je commence à aller au procès. Premier jour, j'y vais un peu à reculons. Je me retrouve dans cette salle le premier jour, et là, je m'assois au fond. Et en premier, ce que je vois, c'est une marée humaine de gens qui ont, comme moi, autour de leur cou, un badge qui dit qu'elles sont parties civiles. En fait, je ne suis pas toute seule, et on a tous été brûlés à la même flamme. Alors, évidemment, ça réveille des choses très profondes, mais aussi, ça me permet de rencontrer des gens qui ont vécu la même histoire que moi, et en tout cas, on vit une aventure collective tous ensemble. Ça veut dire que ça concerne les parties civiles, mais aussi les journalistes, les avocats. On a vécu une aventure assez incroyable. Je témoigne devant la barre, j'écris un texte que je lis. Mais à la fin de mon témoignage, Charlotte Piret, ici présente, me demande de lui passer mon texte pour publier l'intégralité de mon témoignage. Et en fait, mon témoignage va avoir une grande viralité, ce qui m'échappe complètement. Et en fait, c'est important parce qu'à ce moment-là, je me dis, je m'empare de mon histoire, en fait. Et je me dis, OK, en fait, que je le veuille ou non, je suis un témoin de cette histoire. Et je crois que c'est pas inutile non plus que nos histoires soient racontées, en fait.
Le témoignage d'Aurélie avec Charlotte Piret, on les retrouve toutes les deux demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi 13h50, Cécilia Arbonnat nous parle d'un lieu qui fait l'actualité aujourd'hui. Cécilia, nous sommes grâce à vous dans la vallée de la Charente, sur les traces des visons d'Europe. Un programme de réintroduction de l'espèce y est mené depuis 2 mois. Le vison d'Europe, c'est le mammifère le plus menacé en France.
Oui, 10 spécimens ont donc été lâchés en pleine nature et ils font face à des menaces multiples. Danger numéro 1 pour le vison d'Europe, son cousin d'Amérique. Plus grand et plus puissant. Il a été importé en France au XXe siècle pour le commerce de sa fourrure et certains de ces animaux d'élevage se sont échappés de nos fermes et ont colonisé des territoires en Nouvelle-Aquitaine, prenant petit à petit toute la place. Il serait donc plusieurs milliers aujourd'hui chez nous, contre à peine 250 visons de type européen. Alors pour les protéger, une sorte de cordon sanitaire a été tracé en Charente et en Charente-Maritime afin de réussir l'implantation des animaux lâchés à la fin de l'été.
Ça fait donc 2 mois, comment se passe leur nouvelle vie ?
Eh bien, ils ont beaucoup bougé d'abord, et ils ne sont pas faciles à suivre. Ils sont d'une nature très speed, ils peuvent parcourir des dizaines de kilomètres la nuit, confirme Johan Bressan, qui est chercheur scientifique à l'Office français de la biodiversité. Ce spécialiste du castor et des petits carnivores semi-aquatiques assure le suivi de 6 femelles et de 4 mâles, chacun est équipé de puces et de balises, et pourtant, Johan Bressan le reconnaît avec humilité et humour, 5 visons nous ont carrément semés, ils sont peut-être toujours en vie.
Et que sait-on des autres ?
Eh bien, 3 sont morts, c'est sûr. Un vison est tombé au fond d'un puits de captage, les autres se sont fait dévorer soit par une proie coriace, soit par un prédateur plus costaud. Une certitude, la femelle F89 et le mâle M39 eux ont résisté, ils ont cessé leur phase d'exploration et ils se sont posés dans une zone de marécage sur les rives de la Seugne et du Nez. Et là, en fait, ils trouvent de quoi manger, poissons, écrevisses, petits rongeurs et oiseaux.
Les chercheurs espèrent en fait que ces visons vont passer l'hiver, vont tenir jusqu'au printemps.
C'est l'idée, jusqu'au mois de mars, période d'accouplement et de reproduction. en sachant que la fenêtre de tir est étroite, les chaleurs de la femelle durent entre 3 et 5 jours. En plus, Madame a son petit caractère, prévient Guillaume Romano, directeur du parc animalier Zoo Odyssée dans les Deux-Sèvres. Il raconte que les visons ont une drôle de façon de se faire la cour. Ils se lancent dans des courses-poursuites effrénées. Mmh. Ils sont agressifs et peuvent s'unir ou alors se croquer à tout moment les uns les autres. Ils sont inattendus.
Et c'est dans ce parc de la forêt de Chizé que se trouve le seul élevage conservatoire de visons d'Europe.
Eh oui, à l'abri des regards des visiteurs, au fond du parc, se trouve une pouponnière qui a été créée en 2015. Deux agents s'occupent exclusivement de cet élevage de 35 individus. Les petits s'émancipent de leur mère très vite, au bout de 70 jours. On peut donc les lâcher dans la nature. Et d'ici 2031, une centaine de visons d'Europe vont être prélevés de ce parc Zoo Odyssée pour tenter l'aventure de la vie sauvage.
Je retiens les prénoms de ces visons d'Europe, F89 et M39.
C'est pour ne pas s'attacher, on n'aura pas donné des noms mignons.
Non mais là on ne peut pas s'attacher avec de tels prénoms. Cécilia Arbona, chaque lundi dans ce 13-14, de C'est la France à C'est une chanson. C'est la comédienne Anne Richard que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Anne Richard, actuellement sur la scène du théâtre de Poche-Montparnasse à Paris, dans le Bonheur conjugal, un spectacle adapté d'une nouvelle de Léon Tolstoï. Et c'est d'un chanteur populaire qu'elle a souhaité parler, son idole, Claude François.
Il est la genèse de tout. En tout cas, une grosse partie, 80% de la genèse de mon parcours de vie. J'étais toute jeune et j'étais fan de Claude François, comme beaucoup de jeunes filles à mon époque. J'achetais Podium, j'écoutais Claude François, uniquement Claude François, que Claude François, au grand désespoir de mon frère, qui était plutôt super trempé et des choses un peu plus rock. Je sais pas, je suis tombée amoureuse de cet homme, en fait, et de ses chansons, pour sa passion, pour toute l'émotion qu'il me transmettait. Et j'ai très vite compris que c'est aussi ça que je voulais faire. Non pas chanter, parce que j'ai jamais eu le talent de la chanson, mais je voulais transmettre de l'amour. Je voulais faire rêver les gens. Je voulais être une passeuse d'émotions. Et pour moi, Claude François a été le vecteur de l'énergie, je dirais.
Vous aviez des posters de lui dans votre chambre ?
J'avais ma chambre couverte de posters. Et je lui parlais, je communiquais avec lui, je lui racontais ma vie. Je lui faisais des promesses. Et la toute première promesse a été de lui dire « Moi aussi, je ferai comme toi, je rendrai les gens heureux, je suis sûre que je vais un jour pouvoir travailler avec toi et j'irai vivre et je serai actrice à Paris. »
Est-ce que vous vous rappelez de la mort de Claude François ?
Oh là là ! Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça a été un traumatisme terrible et j'ai pleuré, je crois, pendant 3 jours sans m'arrêter. Et mes parents étaient désespérés, ils ne savaient pas comment faire pour me consoler. J'étais comme plein de jeunes filles en France, inconsolable.
Le rideau est tombé pour la centième fois. Dans ma loge déserte, il n'y a plus que moi. Que moi qui me regarde devant ce miroir. Comme un clown fatigué, un enfant dans le noir. Et j'écoute la foule qui part dans.
Cette chanson, Frédéric, n'est pas la plus connue de Claude François. Elle s'intitule « La solitude, c'est après ».
Et c'est aujourd'hui l'une de celles qui touche le plus profondément Anne Richard.
C'est une chanson qui raconte l'envers du décor d'un artiste. L'après-spectacle, quand on se retrouve après avoir rendu les gens heureux, ou du moins les avoir fait rêver ou les avoir divertis, on se retrouve dans notre loge. Et je trouve que « La solitude, c'est après », c'est souvent ça. Et je pense que il y a beaucoup d'artistes qui vivent ça, ces sentiments, surtout je pense en plus beaucoup les chanteurs qui sont face à des foules, mais même nous, moi je trouve que c'est ce moment où on se démaquille et tout d'un coup on se retrouve tout seul, alors on peut avoir des copains, mais je trouve que la solitude de l'artiste, il en parle bien dans cette chanson et j'aime beaucoup cette chanson pour ça, elle m'émeut énormément, parce qu'elle parle de moi, parce qu'elle parle de nous, artistes.
Ces moments-là, ces moments de solitude, ce sont des moments que vous connaissez souvent ?
Ah oui, on est très nombreux à vivre ça. Et quand on fait des films, moi j'ai beaucoup tourné, même quand on est au théâtre, on est très entouré, on va boire des verres, etc. Puis tout d'un coup, il n'y a plus de travail. Tout d'un coup, on se retrouve dans des périodes où on n'est plus en train de jouer chaque soir, on n'est plus en train de tourner. Et bien ce moment-là, oui, c'est des grands moments de solitude, même si on est entouré à la maison.
Et la maison déserte et puis le dernier verre où je revois passer les images d'hier. Étendu dans le noir, j'écoute le silence.
Claude François, il vous arrive de l'écouter encore ?
Je continue à l'écouter, mais dans les moments où j'en ai besoin. Quand j'ai des moments de blues, évidemment dans ce métier, hein, c'est pas toujours facile, il faut se rebooster un peu. Je me mets un Alexandrie Alexandra où ça s'en va et ça revient, et ça me rebooste, et ça me rappelle quel était mon objectif de vie, et ça me redonne de l'énergie pour continuer à avancer.
Il vous ramène à la joie ?
Oui, à l'enfant que j'étais. Puis je me rends compte que je suis pas la seule, hein, parce que vous allez en boîte ou dans les soirées ou tout ça. Et évidemment, quand on l'a dans une soirée et qu'il n'est pas encore arrivé, je proteste et je le demande.
Solitude, c'est après Claude François. C'était donc Frédéric, le choix d'Anne Richard.
Anne Richard à l'affiche du théâtre de Poche Montparnasse à Paris dans Le Bonheur Conjugal. C'est à voir jusqu'au 7 décembre.
Merci Frédéric et à demain. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan, à suivre toute cette semaine. Le voyage de Magellan, succès ou échec ?